Asseyons-nous à l'ombre de cette haie et laissons décliner les feux du plein midi. Je vais te raconter une histoire très ancienne. Et ce champ d'orge qui mûrit sous le soleil de la plaine pourra témoigner que je rapporte l'exacte vérité. Il la connaît et il n'y a pas de meilleur lieu pour compter. Aussi, installe-toi bien, face à moi, car je veux pouvoir te regarder en parlant. C'est l'histoire d'un roi. Un roi si grand qu'il vaut à lui seul toute une race. Son nom, Gilgamesh. Un peu compliqué à prononcer, n'est-ce pas? Pas Gilgamesh, mais Gilgamesh. C'est un nom sumérien. Entraîne-toi. Fais-le rouler dans ta bouche. Déglutis-le. Une fois, deux fois. Écoute-le emplir ta poitrine, se mêler à ton souffle, à ta vie. Gilgamesh. Voilà. C'est beaucoup mieux. Gilgamesh, donc, règne sur une ville de Mésopotamie, Uruk, une capitale puissante. Redouté de ses voisins et protégé par un rempart de briques hérissé de 900 tours. Une capitale fertile, 1000 hectares de jardins, de vergers, d'enclos pour le bétail, petits et gros, d'étangs poissonneux, de temples et de palais, de quartiers résidentiels pour les puissants, de quartiers populeux, où la vie déborde dans les ruelles. D'ateliers où le four du potier n'a jamais le temps de refroidir, où l'osier n'est jamais inerte entre les mains du vannier et la forge, toujours incandescente pour fondre le bronze, couler les armes et les outils. Une capitale bruissante. Le grand fleuve Euphrate, après son périple depuis les neiges d'Arménie, s'y apaise, avant d'épouser la mer. Et ses eaux, poussées par la rame tranquille des bateliers aux barques de roseaux, font partout chanter ce jardin de la création. Voilà le domaine dont Gilgamesh est le maître. Il le gère, le dirige à sa guise, le plie à sa volonté, et ne rend compte de ses actes qu'aux dieux, les véritables propriétaires. Ils sont deux à se partager la vie et à la protéger. Anu, le plus grand, et Ishtar, la dame du ciel, qui règne sur l'amour et aussi sur la guerre. Pourtant, malgré cette protection, Uruk ne connaît pas la paix, car Gilgamesh ne lui laisse aucun répit. Il se conduit avec son peuple comme avec ses ennemis, brutal, autoritaire, violent. Le pays est à lui, avec tout ce qu'il contient. Les terres et leurs fruits, les bêtes et leurs petits, les hommes, les femmes, les enfants. Il y puise à volonté comme en un silo, selon ses désirs, ses caprices. Sa main est lourde et ses appétits dévorants. Il reprend les terres qu'il a données en récompense, crée sans cesse de nouvelles taxes, impose des corvées, diminue les salaires journaliers payés en orge, en date, en huile de sésame. Et lorsqu'il quitte son palais, ses descentes en ville sont redoutées. Il débarque dans les quartiers avec ses courtisans braillards, des voyous, provoque des querelles pour le plaisir d'étaler sa force et de casser. On suit sa trace aux échoppes sans dessus-dessous, aux maisons éventrées, aux terrasses écroulées, aux cris, aux larmes, aux lamentations. Pauvre de nous! Qui nous débarrassera de lui? Il a besoin d'une leçon, mais qui en viendra à bout? Personne pour oser l'affronter. Il le sait. Pourtant, son arrogance et ses excès ne seraient rien s'il ne s'en prenait qu'au bien. Il y a pire. Les jeunes gens, qu'il enrôle dans sa troupe pour guerroyer au loin, changer en fauves cruels, en barbares. Et les jeunes filles, qu'il couche dans son lit pour son plaisir. Alors, partout dans les foyers où des jeunes ont déjà été abîmés, dans les foyers où la menace n'est pas encore tombée, les pères ruminent leur colère, les mères ravalent leur chagrin, et chacun, prenant les statues des ancêtres à témoin, appelle les dieux à l'aide, car il n'y a de recours qu'en eux.